Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, voici votre émission Histoire d'en savoir plus. Elle est réalisée par Simon Martin, au micro Pierre-Alain Bénard, et j'ai le plaisir d'accueillir à notre studio de Chartres Jean-Luc Doublet, maire honoraire du Boulay-Thierry, vice-président, qui a été également vice-président de l'agglomération du pays de Dreux. Bonjour Jean-Luc Doublet.
Bonjour monsieur.
Alors, nous allons parler, bien sûr, des questions qui intéressent un maire d'une commune rurale. En l'espèce, la commune du Boulay-Thierry a un peu moins de 600 habitants. Mais tout cela à travers un livre écrit par un de vos collègues, Pierre-Emmanuel Beigny, maire de Sassy-sur-Marne, une commune de Seine-et-Marne, un peu plus importante, 1800 habitants. Et ce livre s'intitule « Chers administrés, si vous saviez, la vraie vie d'un maire de terrain », publié chez Buchet-Chastel en janvier 2020 et que j'ai découvert à la bibliothèque de la Madeleine de Chartres. Alors, Jean-Luc Doublet, contrairement à l'écrivain, totalise un mandat d'adjoint et 5 mandats de maire dans sa commune du Boulay-Thierry. En face, j'allais dire, Pierre-Emmanuel Beigny, né en 1984, diplômé en communication, il a commencé sa carrière au sein de cabinets ministériels comme chef adjoint de cabinet. Il a passé très brièvement dans le secteur privé en travaillant à la Grande Récré, qui est un magasin de jouets. Et il a été maire de Sassy-sur-Marne, en Seine-et-Marne, de 2014 à 2020. Et il a fait un unique mandat, et il explique pourquoi dans son livre « Chers administrés, si vous saviez ». Il a été élu maire à 29 ans, l'un des 36 maires de moins de 30 ans élu en 2014. Je vous rappelle qu'il y a 35 357 communes en France, dont 85% ont moins de 2000 habitants. Maire plein d'allant, plein d'envie, envie de bien faire pour le village où il a grandi. Et puis, 4 ans plus tard, il décide de décrocher, ou plutôt de ne pas se représenter au terme de son mandat, malgré, selon lui, un bon bilan. Et tout cela à cause d'une phrase qui a fait déborder le vase. Et cette phrase, ça l'a marqué parce que c'est la 4e de couverture, mais aussi cette phrase qui introduit son livre. Et cette phrase est la suivante. Je vous la livre, brute de décoffrage. « Tiens, regarde-moi cet imbécile. Il ferait mieux de nous aider à éponger au lieu de se pavaner dans la rue. » C'était le 12 juin 2018. Cette phrase, anodine en apparence, presque innocente, m'a abattu, dit le maire. Je cite, « Ce jour-là, j'étais debout depuis 5h du matin, la boule au ventre, impuissant, je surveillais le ciel. Avec mon équipe, nous étions sur le pied de guerre pour limiter les dégâts causés par la crue du ruisseau qui traverse notre commune, village dont je suis le maire. Malheureusement, face aux ravages de ce climat qui se dérègle, tous nos efforts étaient loin d'être suffisants. » Alors, je pose une question à brûle-pourpoint à notre invité, Jean-Luc Doublet. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, maire de votre commune, si un de vos administrés vous avait en quelque sorte insulté sur votre parcours? Comment auriez-vous réagi à la place de Pierre-Emmanuel Beigny?
Écoutez, je ne peux pas comparer la commune de M. Beigny à la mienne, puisqu'elle était 3 fois plus importante. Ce que je peux dire surtout, c'est que, contrairement peut-être à une commune de 1800 habitants, dans la mienne, tout le monde pratiquement me connaissait. Donc, il y avait beaucoup de comment dire, de respect pour la personne du maire, c'était une habitude chez nous, même si quelquefois il y avait des controverses et puis des animosités qui étaient logiques par rapport à un élu. Mais je n'ai jamais eu l'impression qu'une goutte d'eau faisait déborder le vase. Ça ne m'est jamais arrivé.
Alors, je me permets de reposer la question, Jean-Luc Doublet. Face à une telle agressivité verbale, si vous aviez été confronté à une telle agressivité verbale, je me permets de vous poser la question.
J'aurais été trouver la personne pour lui demander et lui expliquer ce que j'avais fait depuis le matin 5 heures sans me mettre en colère.
Oui,
donc sans ça, m'en aller.
Je comprends bien.
J'aurais été la trouver en lui disant, tu sais, ou vous savez, c'est en fonction. Depuis 5 heures, je suis là. Et depuis 5 heures, je vérifie, je tends le dos, je prie le ciel pour qu'il n'arrive plus rien. Mais moi, avec ma simple volonté d'homme, je ne peux pas faire tout seul, il faut que tout le monde fasse.
Très bien, très bien. Non, en l'espèce, nous l'avons relevé, M. Beuny, lui, n'a pas réagi. Il a conservé tout ça, il a rentré les épaules et il a continué son chemin sans explication. Alors, avec vous, Jean-Luc Doublet, je voudrais analyser quelques points forts du livre que j'ai sélectionné. D'abord, ce livre, première partie si vous voulez, c'est le témoignage qui met en lumière les difficultés quotidiennes d'un jeune maire. Alors il a des anecdotes, bien sûr, et vous en avez certainement que vous allez nous rapporter au fil de notre entretien. Mais je vais reprendre une première citation de l'auteur qui pourrait avoir vocation à valeur universelle. Et je vous pose la question à vous en tant que maire qui avez été sur le terrain pendant si longtemps. Voilà ce que dit l'auteur. Personne ne vous explique comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'école d'apprentissage. Nous ne recevons aucune formation, aucune indication. Devenir maire, c'est recevoir un parachute sans mode d'emploi. Alors, question que je pose à Jean-Luc Doublet, le maire est-il vraiment un homme seul ?
Parfois, mais pas tout le temps, parce qu'il a une équipe avec lui. Et s'il sait fédérer son équipe autour de lui, il a des soutiens aussi. Mais c'est vrai que face à la population, quelquefois il est seul, parce que la population qui le connaît, qui l'a élu, estime avoir des droits sur lui et lui des devoirs.
Il y a presque une obligation de résultat.
Il y a une obligation de résultat quelque part. On vous a élu pour faire et il faut que vous fassiez bien. Si vous ne réussissez pas, ce sera de votre faute, ce ne sera pas de la nôtre. C'est un peu comme ça. Et puis surtout, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des remerciements. On n'est pas là pour ça. Si l'on fait bien, on n'entend rien. Si l'on fait mal, on a des retours de bâton. Et ça, c'est normal. Mais c'est ce qui nous fait aussi un peu avancer, et c'est ce qui nous fait nous permettre de nous améliorer. Je pense qu'en fait, il est nécessaire d'avoir de l'opposition de façon à ce que l'on progresse soi-même.
Vous considérez donc que la confrontation est utile.
Est nécessaire. Est
nécessaire.
Nécessaire, même. Nécessaire. Vous savez, dans un mandat de 6 ans, j'ai été élu avec une équipe, parce que l'équipe, je ne la choisissais jamais. L'équipe, dans mon village, moi j'ai désiré pour être élu, que toute personne candidate à un mandat se présente d'où qu'elle vienne et sans mon autorisation. C'est-à-dire qu'il y avait un panel de futurs élus qui se présentaient et puis la population choisissait les 11 qu'elle voulait.
Vous voulez dire par là que vous n'avez jamais choisi votre équipe ?
J'ai jamais choisi d'équipe. J'ai toujours été élu par l'équipe choisie par la population, jamais par moi-même.
Un bel exemple de démocratie.
Mais c'est tout à fait possible dans un petit village, parce qu'on se connaît. C'est peut-être beaucoup moins facile dans un village plus important. Mais il est nécessaire qu'il y ait de la confrontation. Je disais à l'instant qu'à un moment donné, dans un mandat de conseiller de conseil pendant 6 ans, j'ai n'ai eu aucune opposition, même constructive. Il y a eu des oppositions constructives quand je présentais des projets. Parce que le maire, c'est celui qui présente les projets. Il est seul quand il fait quelque chose, parce que c'est lui qui doit faire avancer la collectivité et c'est lui qui doit présenter les projets. Et il est tout seul dans sa réflexion. Alors, quand il amène au conseil municipal sa réflexion avec éventuellement des projets, il peut se trouver que des gens ne soient pas d'accord. Et c'est bien. Mais il peut se trouver aussi que des gens soient pas d'accord, mais systématiquement, parce qu'ils sont dans la controverse permanente. D'autres sont dans d'autres cherchent à améliorer le projet. Donc ils sont dans la construction d'un nouveau projet avec des améliorations. Mais ça, c'est une opposition constructive. Et ça, c'était bien.
Et c'est positif.
C'est positif. Et il y a eu un mandat où, en face de moi, je n'avais personne qui me disait « Fais, t'es assez grand pour faire. »
Carte blanche,
mais alors là, vous êtes vraiment seul, parce que vous vous dites, pourvu que je ne fasse pas une bêtise dans un projet, jamais d'opposition, vous ne pouvez pas améliorer le projet. Et ça n'est pas ça.
Très bien. Alors, dans le prolongement un petit peu de ce que je viens de citer, j'ai extrait un nouveau passage, je me cite. « J'en ai vraiment pris plein la figure pendant 5 ans. Je ne pensais pas que la société était arrivée à un tel niveau d'individualisme. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Jean-Luc Doublet ?
Non. On en prend de temps en temps un peu dans la figure, parce que dans une société ou dans une collectivité, il y a des gens qui, certains jours, sont plus ou moins bien dans leur état et qui, de toute façon, revendiquent des choses que vous ne pouvez pas leur accorder. Parce que ce qui est important dans une collectivité, c'est de voir le côté collectif de l'avancée d'un projet, et non pas le côté bien commun, et non pas le côté individuel. Vous avez toujours des individualités qui vont venir vous trouver pour vous demander des choses qui leur seront personnelles, mais qui sont au détriment de la collectivité. Et ça, vous ne pouvez pas l'accepter. Je me suis fait des ennemis, même d'amis, je me suis fait des ennemis parce que j'ai refusé de leur accorder certaines choses. Mais ça fait partie de la vie. Mais c'est pas de l'individualisme, c'est à un moment donné, les gens, est-ce que tu pourrais pas me donner ça, est-ce que tu pourrais pas me faire ça? Et non, si c'était pas dans l'intérêt commun, ça ne m'intéressait pas.
Parce que dans des communes ou dans des villes, tout simplement, on relève des administrés qui ont un tempérament de consommateur.
Voilà.
Bien sûr. Alors, autre point de vue, autre citation, maire, pris en étau, entre les exigences toujours plus grandes des administrés, on en vient, et le désengagement notoire de l'État, pris en étau. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être pris en étau? Est-ce que cette image n'est pas excessive? Ou est-ce qu'elle est conforme à une certaine réalité?
Je ne dirais pas pris en étau.
Parce que l'État, c'est quoi? La sous-préfecture?
La sous-préfecture, la préfecture, et surtout les hauts fonctionnaires, les ministères. Et je ne dirais pas pris en étau, mais je dirais déconsidéré par l'État. On est, nous, les maires des petites communes, on est à l'œuvre, on est là pour faire, pour exécuter, mais on n'a sans doute pas de cerveau parce que l'État nous dit non. Ça, c'est pas votre problème. Vous allez faire comme on vous dit. Ça, c'est désagréable.
Et ça, c'est un sentiment qui est partagé par vos collègues?
C'est un sentiment partagé. Enfin, je pense.
Oui, parce que vous concertez, vous avez l'association des maires, vous retrouvez.
Dans les petites collectivités, c'est comme ça. Un exemple très frappant, le budget communal. Je suis expert comptable de formation.
C'est vrai.
Je sais ce que c'est qu'un budget communal. Bon, quand je recevais des notes de la part du percepteur m'indiquant que mon budget était, parce que c'était les normes de l'État, c'était ridicule par rapport à un véritable budget d'une entreprise. Si on avait fonctionné comme le désirait l'État, on aurait été en faillite très rapidement. Quand on avait un investissement en cours, que les travaux avaient commencé, que les subventions patientaient, parce que l'État, des fois, il nous appelle ça 1 an ou 2 avant, Et pendant ce temps-là, il fallait bien financer. Donc on avait recours à un emprunt pour aider au financement. Donc on nous disait qu'on était trop endetté, alors qu'il n'avait pas mesuré que c'est parce que l'État ne nous avait pas donné ce qu'il devait nous donner. Mais ça, le percepteur, il l'ignorait. C'était, votre budget est nul et à refaire. Oui. Alors ça, quelquefois, surtout pour... Oui. Surtout un homme comme moi qui était expert, ça me crispait beaucoup.
Je comprends. Autre citation, maire, le plus beau mandat de notre République, les gens ont de l'estime pour leur maire, vous le disiez tout à l'heure, mais ils surestiment la fonction. Ils ont l'impression qu'il a réponse à tout et ils le tiennent responsable de tout. Cette conception de l'image du maire est-elle vraiment exacte? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est en partie vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le maire est là pour répondre à tous et à tout. Mais on lui laisse le temps de le faire quand même. La réponse n'est pas forcément immédiate. Mais c'est vrai qu'on considère... On le met un peu, dans nos petits villages, on le met un peu sur un piédestal, le maire. On lui dit, toi qui es là, toi qui sais tout, tu vas nous faire avancer. Et puis après, on s'en préoccupe plus. Et d'ailleurs, à tel point qu'à certains moments, on se dit, mais attendez, les amis, attendez, vous me mettez sur un piédestal, mais moi, je me sens bien seul, là. Vous vaquez à vos occupations, vous amusez entre vous, puis moi, je suis sur mon piédestal, là. Mais qu'est-ce que je fais sur mon piédestal ? Je suis seul et je m'ennuie. Alors, vous venez avec moi, puis on va faire ça ensemble.
Merci pour votre réflexion, Jean-Luc Doublet.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Je vous rappelle que nous avons un invité dans notre studio de Radio Grand Ciel pour cette émission Histoire d'en savoir plus. C'est Jean-Luc Doublet, maire honoraire du Boulet-Thierry. Et en parallèle, nous évoquons certains points forts d'un ouvrage de son collègue Pierre-Emmanuel Beigny, « Chers administrés, si vous saviez ». Alors, je voulais vous poser une autre question suite à cette citation que je reprends in extenso. En tant que maire, il existe quand même de bons côtés. Nous adorons la fonction, nous détestons ce qu'elle apporte comme contrainte. Et plus loin, le maire des champs est un observateur de la société. Ça, c'est fort. Vous avez aimé vos fonctions parce que quand on fait... 5 mandats de maire plus un mandat d'adjoint, c'est quand même pas mal. Et celle de maire, bien sûr, mais aussi vous avez été vice-président de l'agglomération de Dreux et aux finances de surcroît. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez aimé vos fonctions et qu'avez-vous fait aboutir de plus important durant vos mandats ? C'est une double question, en quelque sorte.
Ah oui, j'ai aimé cette fonction. Comme vous le dites, si je n'avais pas aimé, je n'aurais pas reproduit 6 fois la chose. On se prend dans la fonction. On a l'impression d'être utile, on a l'impression de servir à quelque chose. Et ça, dans la vie d'un homme, c'est essentiel. Donc, quand on est engagé, la première fois, je ne savais pas ce que c'était, j'ai découvert. Mais la deuxième fois, je savais. Donc si j'ai remis le couvert, comme on dit, c'est parce que j'avais envie d'avancer et de progresser. J'avais déjà fait quelques petites choses et je voulais aller beaucoup plus loin. J'avais des idées. D'ailleurs, si je peux me permettre, des idées, j'en avais plus pour la mairie que pour ma mairie et que pour ma maison, disait quelquefois mon épouse. Mais c'est vrai que j'étais toujours omnubilé par développer le village, rendre les gens plus heureux, faire ce qu'il faut pour que le village vive
et vive bien.
Vive bien et surtout ne périclite pas. Parce que dans nos petites communes, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'exister. Si nous n'existons plus, si nous sommes rattachés à une collectivité plus grande, mais que nous n'existons pas, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus d'attrait.
Oui, il n'y a plus d'attrait. C'est un village dortoir après. Les gens ne font plus que ça. Donc oui, j'ai aimé cette fonction pour la développer, pour développer le village. Et puis pour faire des choses que je n'aurais jamais imaginé au départ faire, parce que c'est dans les réflexions que petit à petit on est amené à voir certaines choses. Et ça, c'est important.
Je pense en particulier, car nous avons accueilli à 2 reprises ici, Madame la Présidente de l'APBT, l'Association des Amis du Patrimoine du Boulet-Thierry, Madame Paulette Pichard, qui nous a parlé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'émotion de cette association. Je crois que vous êtes à l'origine de cette association.
Oui, oui, tout à fait, puisque mon idée, c'était quand même de faire vivre le village dans des formes d'animation pour sortir les gens de chez eux le week-end, les jours fériés, et dans un but culturel aussi pour développer la culture dans le village. Et la BPD était tout à fait faite pour ça. On a organisé, au départ, c'est l'association du patrimoine, mais au départ, c'était un peu festif plus que patrimonial. Mais petit à petit, en amenant les gens à sortir de chez eux, on est arrivé vers du patrimonial. Tel titre que nous avons acquis même une maison qui nous sert aujourd'hui de maison des associations, où les associations se réunissent souvent en permanence, et les gens sont heureux d'avoir cette maison.
Car vous avez développé la vie associative d'une manière générale.
Bah oui, c'était la vie associative, la vie culturelle, et c'était une façon de faire vivre aussi le village. Hein, nous n'avons pas, dans un petit village comme le nôtre, les moyens d'avoir des équipes sportives, mais nous avons participé dans toutes les communes environnantes où il y avait des sports, à financer les licences des enfants de notre village pour aller faire du sport dans les communes d'à côté, en solidarité avec ces associations-là, même si nous ne pouvions pas. Par contre, le culturel, il était tout à fait possible de le faire venir chez nous, mais à la condition de créer la maison qui puisse l'accueillir. Et c'est ce que nous avons fait.
C'est une belle réalisation.
Oui. D'autant plus que, bon, je n'aurais peut-être pas à dire, que c'était la plus vieille maison du village, qui était dans le temps un café-épicerie comme ça existait dans les années 50-60, qui était en train de s'écrouler, que nous avons restauré pour justement la garder sur le cœur du village, sur la place du village, face au château, puisque nous avons un château. C'était important de conserver cette structure-là avec celle d'à côté pour créer un espace qui soit un espace équilibré autour du château.
Tout à fait central.
Voilà.
Merci Jean-Luc Doublet. Alors,
d'autres réalisations, si vous voulez. Le village s'est enrichi, il a acquis une allée des tilleuls. Alors, nous avons un château. Et ce château, qui date de Louis XIII, 1632, ce château avait une entrée qui était à l'autre bout du village. Le village s'est construit autour de l'entrée, qui était une allée des tilleuls extraordinaire, qui fait 500 mètres de long, avec des arbres qui ont presque 400 ans. Et les châtelains, en voiture, arrivaient à l'autre bout du village, traversaient pour rentrer au château. Aujourd'hui, cette allée des tilleuls, puisque le château a été vendu, revendu, et puis il était aussi en train de disparaître petit à petit, nous avons acquis l'allée des tilleuls, qui nous sert aujourd'hui d'esplanade, qui traverse le village, nous l'avons restaurée, et les gens s'y sentent bien. L'été, il fait chaud, ils vont sous les arbres, ils peuvent aller pique-niquer, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous avons aussi acquis les communs du château, parce qu'il y avait tout un ensemble de communs du château qui s'abîmaient. Nous avions un village, puisqu'on est passé de 350 à 600 habitants, nous avions un village qui grandissait. Il fallait trouver des moyens de créer un groupe scolaire. Ce que nous avons fait en harmonie avec mes collègues voisins du Boulay-Mivois et de Puiseux, nous avons acquis, nous, la commune, les communs du château, et nous avons restauré ces communs en groupe scolaire, si bien que les enfants aujourd'hui vont à l'école dans le château et jouent dans la cour du château. Mais c'est autour de l'église. Tout ça, c'est un patrimoine qui a été rénové. L'église, on l'a rénovée il y a 20 ans. Elle était abîmée beaucoup. Et puis, la maison des associations, en face, le groupe scolaire, l'église, tout ça, ça fait dans le cœur du village un patrimoine qui, aujourd'hui, est assez joli à regarder. Et ça fait partie des prérogatives qu'on avait mis en place pour essayer de maintenir à flot ce village qui nous est très, et qui, pour lequel on porte beaucoup d'intérêt.
Et l'école fondamentale.
Ah bah bien sûr, garder l'école. Alors, mes collègues voisins, eux, ont accepté de venir à l'école du Boulay-Thierry. Donc ça a été aussi pour eux une démarche importante, mais on a fait le groupe scolaire avec
de très belles conditions, avec des bâtiments tout à fait remarquables, effectivement. Et j'invite les auditeurs à faire un petit tour au Boulay-Thierry, ça vaut vraiment la peine, c'est un très beau...
C'est un village classé maintenant, enfin classé, enfin pas au monument historique, mais il est classé à la région.
Et l'on sait également qu'il est sur l'un des parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Saint-Jacques-de-Compostelle, également.
Alors, autre volet de ce livre, chers administrés, si vous saviez, de Pierre-Emmanuel Beigny, sur la revalorisation, le statut de maire est à revoir avec quelques propositions. Alors, l'auteur fait état de quelques propositions. Nous allons avoir peu de temps pour en parler. C'est vrai qu'il est question de revaloriser les indemnités de maire, parce que ce n'est pas avec ça qu'on peut vivre. Dans une commune, quand on est maire d'une petite commune, on ne vit pas avec une indemnité de maire. Il parle de bonification de points de retraite, d'accompagnement de fin de mandat et de reconnaissance des acquis professionnels. Et enfin, le renforcement de la protection des maires face à l'insécurité. Parce que malheureusement, hélas, il y a eu des choses tragiques qui se sont passées. Et enfin, une aide à la formation des maires débutants, mais ça rejoint un peu l'idée initiale. Est-ce que vous avez en peu de temps, Jean-Luc Doublet, des propositions pour remédier à la désaffection des candidatures de maire?
Oui. Est-ce que le candidat à la mairie serait plus nombreux? Je ne sais pas, avec les propositions que fait M. Beigny. Tout ce que je sais, c'est que si nous étions plus entourés de la part de l'administration, c'est-à-dire de la part aussi des juges, souvent nous sommes confrontés, nous, les petits villages, à des exactions de la part de jeunes ou de la part de moins jeunes. Et si le maire est en première ligne, et s'il va devant et qu'il se fait insulter, ou qu'il, on a déjà vu ça dans les journaux, et qu'il met une gifle par hasard à un enfant, c'est lui qui est condamné. Comment voulez-vous faire respecter la parole d'un maire quand devant une population, il se fait insulter par un jeune et qu'il n'a rien le droit de dire? Au contraire, s'il dit quelque chose ou s'il répond, le tribunal va le condamner. Moi, j'ai été confronté à un jeune qui m'a dit, à 2h du matin, il y avait des gens, ils m'ont dit, écoutez, sur la place du village, il y a des jeunes qui font le bazar. Moi, je me lève à 5h, je ne peux pas dormir. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose, monsieur le maire? Donc, à 2h du matin, j'y suis allé. Les jeunes étaient un peu énervés, peut-être un peu alcoolisés aussi. Le jeune, il est venu vers moi, carrément, il m'a dit, allez-y, mettez-moi un coup de poing, mettez-moi une claque. Si j'avais fait ça, il allait immédiatement à la gendarmerie porter plainte et moi j'aurais été condamné. Comment voulez-vous faire respecter dans un village la loi si vous n'êtes pas soutenu d'une façon correcte par les trucs? Ce qui n'est pas le cas de la gendarmerie. La gendarmerie nous aide bien. Mais je suis un peu, moi, sévère avec les tribunaux et les juges de ce côté-là.
Malheureusement, vous n'êtes pas le seul à déplorer Jean-Luc Doublet. Voilà. Alors, je vous laisse la conclusion. Nous avons très peu de temps. Quel serait, selon vous, le profil idéal d'un candidat aux fonctions de maire d'une petite commune rurale? Est-ce que vous pouvez nous dire ça en une petite minute?
Je ne sais pas s'il y a un profil idéal, mais je réitère mes propos précédents. Vouloir se rendre utile, servir la société sans arrière-pensée et en fonction de ses moyens, et avant tout, aimer les gens.
Aimer les gens. En fait, c'est un sacerdoce. Vous aimez les gens pour avoir fait ça. C'est très important. Histoire d'en savoir plus, chers auditeurs, cette émission a été réalisée avec Jean-Luc Doublet à travers un livre de « Cher administré, si vous saviez », écrit par Pierre-Emmanuel Beigny. Merci Jean-Luc Doublet de nous avoir fait l'honneur et l'amitié de venir à notre micro. Merci Simon pour la réalisation de cette émission. Merci chers auditeurs, restez avec nous.
Et merci à vous de m'avoir écouté.